Décryptage. Clotilde Dumay.
On dit en France que les Marseillais seront à jamais les premiers, mais seront-ils suivis samedi par les Parisiens? Le PSG va tenter ce week-end de décrocher une seconde victoire française en Ligue des Champions. La finale opposera à Munich le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan. Au-delà de l'exploit historique, ce serait aussi une belle parenthèse pour le football français en plein marasme économique. Entre le fiasco des droits de télé et la dépense excessive, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en sont à plus d'un milliard d'euros de déficit cette saison avant les transferts de joueurs. Alors qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le football français? Comment sortir de cette situation? On en parle ce soir dans Décryptage. Et j'accueille en studio Louis-Marie Vallin, bonsoir.
Bonsoir.
Membre de l'Observatoire du sport business. Alors, dans le courant du mois de mai, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a donné une conférence de presse pour présenter une réforme du football professionnel. On y reviendra plus tard. Mais d'abord, voici le constat qu'il a établi.
On est aujourd'hui dans une situation que n'a peut-être jamais connue le football professionnel. À la suite de la dégradation du montant des droits audiovisuels, cela fait basculer un certain nombre de clubs dans une situation où leur survie même est en jeu.
Leur survie même est en jeu. Comment est-ce que le football français en est arrivé là, Louis-Marie Vallin? Quand est-ce que les problèmes financiers réellement ont commencé à apparaître et pourquoi?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est qu'un club de football, il doit se baser idéalement sur des recettes équilibrées entre, d'une part, les droits télé, le merchandising, le sponsoring et la billetterie. Or, depuis quelque temps, le football, grâce à la bulle spéculative énorme autour des droits télé, a vu cet équilibre complètement rompu. Avec, bien sûr, à l'avantage des droits télé qui sont devenus très importants.
On a un ordre d'idée justement de ce qu'ils représentent dans les recettes d'un club, les droits télé?
Bon, ça va dépendre des championnats et puis ça va dépendre des clubs. Mais bien évidemment, aujourd'hui, on sait qu'il est plutôt de l'ordre de 40-45% à peu près dans un club de Ligue 1. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que pendant des années, la Ligue 1 est accompagnée par un partenaire très fidèle, Canal+, avec qui ça marchait très bien. Et au tournant des années 2020, il y a eu une espèce de fantasme dans le football français, c'est qu'on pouvait atteindre le milliard, ce fameux milliard de droits TV annuels qui faisait fantasmer tout le football français. Et le football français a pris des risques. Ils ont un petit peu fait des paris. Ils ont parié sur un nouveau diffuseur, tournant le dos à leur diffuseur historique, Canal+, pour se lancer à l'aventure sur un diffuseur qui avait pas tout à fait les mêmes références, qui avaient même été refusées en Italie par défaut de garantie bancaire. Et ce diffuseur, c'était Mediapro, qui a promis donc ce fameux milliard. Tout le monde était très content, c'était formidable. Et ce qui s'est passé, c'est que Mediapro a fait défaut. Mediapro n'a pas assuré son contrat. Là-dessus, le Covid est arrivé, donc ça a été la double peine. On s'est retrouvé dans une situation où les clubs étaient complètement en déficit parce qu'ils avaient anticipé.
Ils ont dépensé de l'argent en fait en estimant qu'ils allaient avoir tout cet argent et donc ils n'ont pas vraiment compté.
Bien sûr, ils se sont dit, là on va pouvoir investir, on va pouvoir recruter des joueurs plus forts, on va pouvoir augmenter les salaires. Et les salaires représentent une masse trop importante aujourd'hui dans le football. On voit que certains clubs sont pas loin de 70, 80, voire 90% de leur chiffre d'affaires qui est représenté par la masse salariale. Donc c'est très important. Et du coup, on se retrouve à un moment donné où quand Mediapro fait défaut, les clubs français se retrouvent le bec dans l'eau, en vraie difficulté économique. Donc, ça a été le premier pas. Et je pense que le péché originel, il est là. Ce choix de tourner le dos à un diffuseur historique qui, quelque part, non pas surpayait le football, mais ça faisait partie de son ADN, ça faisait partie de sa politique globale chez Canal+. Donc, il était content de payer cher. Il payait des droits qui étaient très importants. Sauf qu'ils n'ont pas suivi cette surenchère en considérant qu'elle n'était pas du tout légitime. Et l'avenir leur a redonné complètement raison. Et depuis, les droits télé n'arrivent même plus à arriver au même niveau que ce qu'on a connu bien avec Canal+. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les droits télé qui sont actuellement ceux de DAZN, mais qui DAZN est aussi en train de faire défaut, on y reviendra, ils sont loin des 600, 700 millions, des 600 millions à peu près, que versait Canal+, mais au début des années 2000, entre 2005 et 2010. C'est quand même impressionnant, c'est-à-dire qu'on est moins haut que ce niveau-là. Donc ça, c'est très important aujourd'hui.
Mais c'est vrai qu'effectivement, vous le mentionnez, on a beaucoup parlé ces derniers temps de DAZN avec un modèle qui ne fonctionne pas aussi, avec des abonnements allant jusqu'à 40 euros qui ont fait fuir pas mal de passionnés du football. Finalement, en fait, ça n'a été que la goutte d'eau qui fait déborder le vase un petit peu.
Je trouve qu'on met beaucoup de la faute sur DAZN. Alors effectivement, ils n'ont pas fait une offre qui était parfaitement calibrée. C'était pas idéal. Mais il faut voir dans quelles conditions ils ont hérité de ces droits TV. Il faut se souvenir que quand ils récupèrent les droits TV, c'est 15 jours avant la reprise du championnat. C'est complètement hallucinant de se retrouver dans une situation où un championnat n'est pas vendu aussi proche de sa reprise. Bah, du coup, vous êtes un média, vous savez comment ça fonctionne. Quand on a des droits, quand on a un championnat à assurer, bah, les premières choses qu'on doit faire sur les 15 jours qui nous restent, c'est d'abord se dire comment on va produire, comment on va diffuser, comment on va, bien évidemment, avoir tous ces aspects techniques d'assurer, comment on va avoir une édition, c'est-à-dire avoir des journalistes, avoir des gens qui commentent. Et finalement, l'offre commerciale, elle est un petit peu passée, ils n'ont pas eu le temps de bien la définir, ils n'ont pas pris le temps de la faire correctement, et elle ne correspondait pas à ce que les gens étaient prêts à payer. Mais ce n'est pas de leur faute si les gens ne sont pas prêts à payer ça aujourd'hui. C'est parce qu'on a tellement vu de se succéder des diffuseurs différents, à des prix différents, qu'on a multiplié les abonnements, que les gens en ont eu un ras-le-bol. Finalement, les gens seraient prêts à mettre 40 euros pour le football, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils sont déjà abonnés à Canal+ pour voir la Ligue des Champions, déjà abonnés à Bein pour voir le championnat, un autre championnat, puis également abonnés à RMC, puis abonnés... Enfin, ils se sont abonnés à tous ces diffuseurs successifs, et donc la note ne fait qu'augmenter. Et c'est ça le gros problème. Et donc les gens, il y a eu un effet de ras-le-bol, effectivement. En plus, face à cela, effectivement, l'éditorial, comme je vous le disais, ils n'ont pas le temps de faire des choses qualitatives. L'éditorial ne suivant pas, les gens qui se sont abonnés se sont dit « Non mais attendez, on paye 40 euros, l'éditorial ne suit pas, il n'y a pas les émissions de qualité comme on avait chez Canal+, qui faisait ça depuis 30 ans. » Bref, on se retrouve avec un produit qui est complètement dévalué, que les gens ne veulent plus suivre. Et en parallèle, en plus de cela, la Ligue des Champions, qui est le championnat, la Coupe d'Europe, que va disputer Paris en finale demain, après-demain, pardon, eh bien, elle se développe énormément, avec de plus en plus de matchs, de plus en plus de droits. Et donc finalement, bah, les gens se disent bah, « J'ai suffisamment de football, potentiellement, en suivant la Coupe d'Europe. J'ai moins besoin, ce besoin de la Ligue 1, qui en plus est un championnat qui n'a plus vraiment de suspense avec l'archi-domination du Paris Saint-Germain. » Donc finalement, il y a de moins en moins de raisons de s'abonner à la Ligue 1, parce que bah, tout ce que je vous ai expliqué fait que ce produit est dévalué aujourd'hui et qui est en vraie difficulté.
Alors, pour faire face aux difficultés financières des clubs, un partenariat a été conclu avec le fonds d'investissement CVC Capital Partners, qui a donné 1,5 milliard d'euros hein, dans le football français, pour le football français, mais en échange de 13% des parts d'une société commerciale qui a été créée par la Ligue de football professionnel. Autrement dit, tout ce que le football français gagne, eh bien 13% donc revient à ce fonds d'investissement. Et donc, il va falloir lui verser des dividendes tous les ans. C'est une fausse bonne idée.
Alors, fausse bonne idée, je ne sais pas. En tout cas, c'est une idée prise dans l'urgence. Comme je vous le disais, au moment où CVC arrive, Mediapro s'est dédié. On a perdu l'année du Covid, c'est-à-dire que non seulement les clubs ont perdu les droits télé, mais ils ont, je vous rappelle, qu'ils n'avaient pas le droit d'organiser des matchs dans leur stade, on a arrêté le championnat. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, plus de billetterie. Qui dit plus de billetterie, dit plus de merchandising. Et les piliers dont je vous parlais tout à l'heure, ils se sont tous effondrés. Et d'un coup, on se retrouve avec des clubs qui, en revanche, ont toujours leur masse salariale très importante et n'ont plus les revenus pour y faire face. Donc là, il fallait sauver, c'était le sauve qui peut. Ils ont pris la première offre venue et dans ces cas-là, on ne négocie jamais dans de bonnes conditions. Et concrètement, cet accord...
Cet accord qui doit durer 99 ans. Hein,
ah non, mais
en plus...
c'est quelque chose de complètement hallucinant de se dire que cet accord, il a été signé ad vitam aeternam. Il n'y a pas de délai court. Et vous parliez de 13%, ça c'est uniquement par rapport au non-montant des droits télé qui était édicté au moment de la signature. Si d'aventure les revenus devaient baisser, la part accordée à CVC va augmenter. Donc, on se retrouve dans une situation où CVC, oui, ils ont sauvé les clubs, et la réalité, c'est que quand CVC sauve les clubs, c'est de la banqueroute. Et on a vu que certains clubs français ont quand même fait banqueroute. On parle des Girondins de Bordeaux, qui est un des plus grands clubs de l'histoire du foot français, qui est complètement en banqueroute et aujourd'hui a perdu son statut professionnel.
Et aussi, l'argent qui a été injecté a bénéficié davantage aux grands clubs, on va dire comme le Paris Saint-Germain, qui est déjà dans une meilleure forme financière que les autres, on va dire, et un petit peu moins peut-être aux plus petits clubs, qui donc se retrouvent peut-être aussi davantage en difficulté.
Alors après, il faut savoir que, de toute façon, dans ces négociations-là, dans les droits, c'est toujours proportionnel. Et ça va aussi avec une certaine logique. Ce sont les clubs qui sont les plus forts, donc qui ont les plus grosses masses salariales, qui ont les plus gros niveaux de revenus et qui drainent surtout le plus grand nombre de personnes devant leur télévision. Donc c'est normal qu'ils aient un taux de retour un peu plus élevé. Il n'y a pas de problème. Mais le PSG, il faut quand même avoir en tête que même aussi puissant soit-il, il est en déficit structurel tous les ans. Aujourd'hui, ça reste le cas du PSG. Alors, il a un fonds souverain derrière lui qui peut sans problème éponger à chaque fois qu'il y a un souci, mais le PSG n'est pas à l'équilibre économique, même le PSG.
Et vous parlez des Girondins de Bordeaux. Là, actuellement, il y a un autre club, peut-être encore plus grand, qui fait beaucoup parler. C'est le cas de l'Olympique Lyonnais, qui va être auditionné par la Direction nationale du contrôle de gestion, qui est un peu le gendarme financier du football français, et qui risque, peut-être, on ne sait pas, une relégation carrément potentiellement en Ligue 2 à cause de sa situation financière.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Lyon a déjà, théoriquement, été rétrogradé. Il y a une mesure qui a déjà été prise en janvier en disant qu'ils vont être rétrogradés si rien ne change. Il y avait des accords qui avaient été passés. Ils devaient réduire la masse salariale, faire rentrer une certaine somme d'argent. Aujourd'hui, la somme promise n'est pas rentrée. En toute logique, à moins d'arrivées spectaculaires d'argent de dernière minute, mais ça n'est pas du tout la tendance, Lyon, en tout cas la décision de la DNCG, devrait être confirmée. Il y a de très grandes chances que Lyon soit rétrogradé. Alors peut-être qu'ils réussiront à se sortir avec des apports, mais toutes les promesses faites par le président, pour l'instant, n'ont pas été tenues. Et on en parlera, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je vous le disais, les revenus de la Ligue des Champions ont explosé, et c'est un petit peu la bouée de sauvetage qu'espérait attraper l'OL. À l'arrivée, ils ne l'ont pas eu. Et là, c'est une catastrophe industrielle pour Lyon de ne pas s'être qualifié pour cette Ligue des Champions. Ça, c'est un vrai problème pour eux, et on va se rendre compte qu'aujourd'hui, le fossé se creuse énormément. Parce que les clubs qui participent à la Coupe d'Europe ont des revenus de droits télé qui sont énormes et ça va creuser complètement un fossé entre les plus gros clubs, qui étaient déjà largement mieux armés, et les plus petits. L'homogénéité de la Ligue 1 va s'en retrouver véritablement impactée.
Clotilde Dumay.
À la suite de ce décryptage, toujours avec Louis-Marie Vallin, membre de l'Observatoire du Sport Business. Alors, puisqu'on parle de Ligue des Champions, Louis-Marie Vallin, comment ça se passe à l'étranger, justement? Est-ce que la situation est la même dans les autres ligues de football ou est-ce que ça va beaucoup mieux?
Ça va beaucoup mieux parce qu'ils n'ont pas de problème de droits télé, tout simplement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les droits TV sont bien supérieurs dans les quatre autres grands championnats qu'ils ne sont en France. Et donc, on se retrouve pas dans cette situation de blocage parce qu'ils ont réussi à pérenniser leur diffusion. Aujourd'hui, bon, on ne va même pas parler de la Première Ligue.
Oui, c'est ce que j'allais dire. La Première Ligue, c'est peut-être l'exemple absolu, on va dire, de la réussite actuellement.
C'est un exemple, c'est complètement hors norme. Aujourd'hui, la Première Ligue est un marché qui est tellement autosuffisant. Leurs droits télé, ça représente plus de 4 milliards, que ce soit les droits télé à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Ce qu'il faut comprendre, que les droits télé sont divisés en deux. Les droits domestiques et les droits internationaux. Et c'est vrai qu'en France, on a un peu eu ce fantasme aussi pendant des années. On s'est dit « Ah, le PSG arrive, le Qatar arrive, ils font faire venir des stars. » Ça va faire exploser les droits. En fait, ça a été complètement une erreur parce que la réalité, c'est que à l'intérieur, ceux qui s'abonnent généralement sont plutôt les supporters hardcore de leur club. Finalement, ce qui va les intéresser, c'est plutôt que leur club performe et soit compétitif. Que le PSG gagne, ça les intéresse moins, il y a moins de compétition. Et à l'étranger, ça n'a pas pris. Finalement, les droits TV n'ont pas explosé à l'étranger comme on pouvait l'espérer en disant le PSG, avec des stars, va donner envie aux gens de consommer la Ligue 1. Ça n'a pas été le cas. Alors qu'en Première Ligue, leurs droits télé à l'international et dans le national sont à l'équipe. C'est quasiment 2 milliards de chaque côté.
Alors justement, la Première Ligue, c'est l'exemple qui a été pris par Philippe Diallo, le patron de la Fédération Française de Football, qui veut justement s'inspirer du modèle anglais pour réformer la Ligue de Football professionnelle. Il a présenté sa réforme ce mois-ci, on écoute un extrait.
Il y a, à mon sens, au moins quatre ruptures majeures avec le système actuel. Le premier consiste à passer d'un dispositif où la Ligue de Football professionnelle, association de 1901, céderait la place à une société commerciale dans lesquels les clubs seraient actionnaires. On passerait à une société de clubs qui serait actionnaire de cette société, avec CVC, qui, je le rappelle, a au capital 13% de cette future société. Et la fédération sera elle-même présente au sein de cette société au capital. Deuxième point de rupture, c'est la gouvernance de cette société. Dans la LFP, il y a un président élu. Dans la future société commerciale, il y aura un directoire de professionnels recrutés qui seront des mandataires nommés par les clubs et révoqués par les clubs. Et donc on sort d'un système électif pour passer à un système de nomination des dirigeants de la future société commerciale.
Voilà, Philippe Diallo qui parle d'une première ligue à la française. Est-ce que les pistes qui sont évoquées, Louis-Marie Vallin, c'est un bon début, on va dire, pour rebondir?
Un bon début, oui. C'est toujours dans une optique de professionnalisation. On passe juridiquement, effectivement, d'une association à une société commerciale. Donc, il y a un aspect un peu plus professionnel, on va dire. Et surtout, la réalité, c'est que le fond de cette décision, c'est de faire re-rentrer Canal+ autour de la table, de remettre Canal+ à la table des négociations pour travailler avec. Il y avait un vrai élément de blocage aujourd'hui entre Canal+ et la direction actuelle de la Ligue, à savoir le président notamment Vincent Labrune, qui, avec cette réforme, partirait. Et on a vu que le recrutement d'ailleurs de Nicolas de Taverneau pour gérer XM6. Cette nouvelle entité n'est pas du tout anodine. Concrètement, il y a cette volonté de reprendre la main, professionnaliser et remettre Canal+ autour de la table. Et c'est une des solutions, a priori, qui est la plus viable.
Ça veut dire que la solution, elle passera encore par les droits TV, quoi qu'il arrive, là, pour prochaines années ?
Bien sûr. En fait, le problème, c'est que les droits télé, aujourd'hui, sont beaucoup trop importants en termes d'impact. Et on ne peut pas s'en priver. Ou alors, il y a une deuxième solution, c'est on réduit complètement la voilure. Et c'est une des choses qu'a annoncé le président Diallo, et c'est une très bonne chose, à mon sens, en termes de limitation de la masse salariale dont je parlais tout à l'heure, avec un cap dont il parlait fixé à 70%, qui éviterait de se retrouver dans la situation qu'on a connue avec des débordements beaucoup trop importants.
Ça veut dire donc réduire les salaires des joueurs, hein, concrètement.
Exactement.
Limiter. On parle de cette situation qui est compliquée, et pour autant, on voit ces derniers temps quand même de plus en plus de personnes fortunées qui investissent dans des clubs. Le dernier exemple, c'est Xavier Niel, le fondateur de Free, qui vient d'avoir une part de Créteil. Il y a aussi la famille Arnaud, évidemment, qui injecte de l'argent dans le Paris FC. Pourquoi est-ce qu'ils font ça si la situation financière des clubs est compliquée ?
Disons qu'il y a quand même un effet d'entraînement. On voit que depuis longtemps... La famille Pinault avait investi à Rennes. Et là, je pense que c'est l'opportunité. Il y a eu une vraie politique du côté de LVMH et de la famille Arnaud d'investir dans le sport, ce qui n'était pas du tout leur terrain d'expression auparavant. Ils sont arrivés d'abord dans l'équitation, puis un peu autour des JO. Il y a eu cette opportunité. Et depuis quelques années, ils voulaient investir le football. Il y a eu cette opportunité formidable au PFC, qui pour l'instant est un petit club, qui monte en Ligue 1 cette année. Le projet va se développer d'année en année. Je pense que c'est une nouveauté en France et c'est une bonne nouveauté. Alors, les raisons, elles sont, j'ai envie de dire,
c'est quoi ? Est-ce que c'est l'idée de peut-être concurrencer aussi d'autres investisseurs étrangers ? Si on prend l'exemple du PSG avec le Qatar ou même d'autres, John Textor à Lyon, voilà.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté de concurrencer. Je pense qu'il y a une volonté d'exister et qu'il y a une stratégie qui est de se dire aujourd'hui, le sport en France fait vendre, ce qui était beaucoup moins le cas il y a 10, 15 ans. La France n'est pas forcément un pays de sport en termes de culture, en termes politiques. Aujourd'hui, avec les candidatures et les réussies à la Coupe du Monde 2023, les JO 2024, il y a une mouvance en France qui fait que le sport a pris une place plus importante dans le domaine public, dans même tout ce qui est médiatique, l'univers médiatique. Et donc forcément, quand on est un grand groupe et qu'on veut exister dans ces univers-là, ça fait partie des univers qu'il
faut l'idée, c'est de garder une image aussi, on va dire, auprès des consommateurs de sport ?
Bien sûr. L'idée, c'est de faire de la publicité, d'une certaine manière, et d'exister sur des domaines-là, d'investir dans des nouveaux théâtres qui ne sont pas les leurs au départ.
Alors, reste à savoir où sera diffusée donc la prochaine saison de football, de Ligue 1 maintenant, puisqu'effectivement, vous le disiez, DAZN a laissé tomber. Pour le moment, on est un peu dans le flou. La Ligue de football professionnel lancerait sa propre chaîne. Où est-ce qu'on en est dans ce projet ?
Alors, c'est encore un peu flou. La question, c'est pas uniquement qui est le producteur. Effectivement, il se pourrait qu'il y ait une chaîne.
Vous parlez de Canal+, mais est-ce que ce sera dès la saison qui vient ?
On peut espérer que de toute façon, Canal+, aujourd'hui, ne se positionnerait pas comme un producteur-diffuseur. À savoir, on ne tournerait pas sur Canal, mais à travers ses bouquets, proposer la chaîne de la Ligue. C'est un moyen détourné de re-rentrer aussi dans le jeu. Donc potentiellement, ça serait une piste à explorer. La Ligue qui développerait sa propre chaîne, ce sont des coûts conséquents, c'est vraiment pas évident. C'est une création de chaîne, ça serait pas évident. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils peuvent intégrer des bouquets déjà existants pour limiter aussi les abonnements superflus, dont je décrivais tout à l'heure les mécanismes. C'est un peu la question aujourd'hui, mais l'idée, c'est produire son football et le diffuser, l'ouvrir au plus de packages possibles qui existent déjà aujourd'hui.
Merci beaucoup, Louis-Marie Vallin, d'avoir été avec nous ce soir sur RFI. Je rappelle que vous êtes membre de l'Observatoire du Sport Business. Fabrice Violet était à la réalisation ce soir. Merci aussi au service documentation et à la Sonothèque de RFI. Et puis